Bonjour, Jean-Philippe Milesi, je suis secrétaire général de l'Institut Polanyi France, que préside Jean-Louis Laville, et qui, après une période d'un certain silence, se relance en cette fin d'année 2020, dans cette fin d'année très troublée 2020. Et attendez-vous à savoir, comme disait Geneviève Tabouy, attendez-vous à recevoir des informations, voire des sollicitations de cet institut Polanyi France qui se relance. Voilà, il était prévu que notre ami Romain Guéry assure une transition. Bonjour Romain.
Bonjour.
Une transition entre les deux tables rondes, sachant qu'on a terminé la précédente sur le thème de la mutualisation et que nous allons parler après de synergie. Romain.
Merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Romain Guéry du groupe Vive. Donc, ravi d'être là. Alors, le groupe Vive, en quelques mots, c'est un groupe de mutuelles de santé qui est actif dans les protections financières, les fameuses mutuelles que tout le monde connaît, mais aussi, de manière très importante, dans l'action sociale, le soin, puisque nous disposons de cliniques, de centres de santé, d'EHPAD, de services d'aide à domicile, privés à but non lucratif. Et donc, moi, au sein du groupe Vive, je m'occupe des relations institutionnelles et de la prospective. Et je suis ici aussi au titre de mes engagements depuis 15 ans dans l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis ravi de pouvoir introduire cette table ronde sur les synergies dans l'économie sociale et solidaire qui, du point de vue de Vive et de mon point de vue, sont tout à fait essentielles puisque c'est par une stratégie d'union, de rassemblement que nous tous, ici présents, les associations, les mutuelles, y compris les fondations, bref, tous ceux qui représentent les solidarités civiles, nous pouvons faire face à ce que j'appelle l'hydre à deux têtes, qui nous menace. Alors, cette hydre à deux têtes, la première tête, elle est bien connue, c'est celle de la grande entreprise privée à but lucratif, avec un appétit vorace, jamais rassasié, capable de lever des millions, si ce n'est des milliards, pour attaquer des marchés à perte, quitte à fonctionner à perte, pour casser justement l'emprise qu'ont pu avoir des associations qui ont créé, par exemple, des activités ou des mutuelles qui ont développé des activités. Ça, c'est la première tête de l'hydre. Elle est bien connue, elle est plus forte que jamais. La deuxième tête de l'hydre, c'est la dérive étatiste. C'est une version caricaturale, jusqu'au boutiste, d'une forme d'action publique qui, quand elle ne peut pas faire les choses ou quand elle ne veut pas faire les choses, interdit aux autres de le faire. Nous, dans les mutuelles, nous sommes bien placés pour connaître cette tendance qui, depuis une vingtaine, trentaine d'années, réduit année après année nos capacités à agir et fait porter ensuite la responsabilité de leurs échecs sur nos frêles épaules. Donc, face à cette hydre à deux têtes, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se regrouper, c'est d'agir ensemble. Et notamment de porter des plaidoyers communs, mais aussi de créer des projets en commun. Alors, sur les plaidoyers communs, et ce qui me permettra de lancer la parole pour les intervenants suivants, nous, on fait au groupe Vive deux propositions. Une proposition principale qui concerne justement la première tête de l'hydre, qui est d'agir pour une économie non lucrative, c'est-à-dire de porter des plaidoyers communs sur l'économie non lucrative ou à lucrativité limitée au niveau européen, car c'est au niveau européen que sont les blocages qui nous empêchent d'agir. Ça, c'est un point très important pour défendre ce modèle économique qui a un avenir très intéressant. Deuxième point, c'est la question de développer des solidarités civiles en complément des solidarités nationales, non pas en opposition, mais en complément, et donc d'imaginer des systèmes de mutualisation, de mise en commun de moyens, mise en commun d'énergie. Donc voilà en gros nos deux grandes propositions. Alors on peut les détailler, on a écrit des choses et on se déploie. Et c'est en cela que l'économie sociale nous semble tout à fait essentielle, parce que c'est par l'économie sociale qu'on peut mettre en commun associations, fondations, mutuelles, coopératives, des idées, des projets, investir ensemble, créer des choses et essayer de développer notre surface d'action tous ensemble. Voilà en quelques mots, et vous pourrez en savoir plus si vous allez sur nos sites internet. Et je me permets de passer la parole à Jean-Philippe et aux intervenants suivants. Merci à vous.
Voilà. Pardon, excusez-moi. J'étais trop discret. La mutualité avec ses millions, ses dizaines de millions de sociétés, d'adhérents, les coopératives avec leurs millions de sociétaires, les associations avec leurs 12 millions de bénévoles, leurs 2 millions de salariés, sont une réalité absolument incontestable. Sont-elles une force pour autant ? L'ESS est-elle une force pour autant ? Les crises récentes ont paradoxalement ou d'une façon regrettable conduit beaucoup d'acteurs de l'ESS à un repli sur, eux-mêmes, alors que alors qu'elles proclament qu'elles doivent constituer des alternatives ou qu'elles sont des forces d'émancipation. Alors pour être alternative, pour être force d'émancipation, ne faut-il pas développer au contraire des convergences, des synergies, et comme nous y invite le titre de notre séquence. Donc, pour en parler, Jérôme Sadier, qui est président de ESS France et par ailleurs vice-président du Crédit Coopératif, et Patricia Kohler, qui est déléguée générale de l'UFISC et qui représente ici le mouvement pour l'économie solidaire. Donc, je vais donner la parole d'abord à Jérôme, puis à Patricia, dans le court temps qui nous est imparti par cette séquence. Jérôme, tu as la parole.
Merci Jean-Philippe, bonjour à tous, et désolé Patricia, je ne sais pas si c'était à moi ou à toi de commencer. Je vais commencer par d'abord vous remercier pour l'invitation qui, me semble-t-il, fait sens dans les interrogations, en tout cas celles qui étaient annoncées, parce que je n'ai pas assisté à la séance, enfin aux séances de ce matin. Je vais commencer par deux nuances avec ce qu'ont dit Romain et Jean-Philippe néanmoins, pas des désaccords, hein, des nuances. Nuance avec Romain, parce que je ne pense pas qu'il n'y ait que des blocages au niveau européen. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce que tu as dit, mais je ne veux pas qu'on donne le sentiment que le combat ne se pose qu'au niveau européen. Nuance avec Jean-Philippe, parce que je ne suis pas sûr que ce soit que la crise, ou depuis la crise, que les acteurs de l'économie sociale aient tendance à se replier sur eux-mêmes. On va dire, comme plutôt le sentiment que chacun court dans son couloir, pensant qu'il a raison depuis quand même pas mal de temps. Bref, ayant dit ça, et pour faire le lien avec vos travaux, ce que j'ai compris de vos travaux précédents, plus exactement, c'est que moi, je souhaite que, en tant que président de SS France, mais je souhaite que ce soit une ligne collective, qu'on puisse rappeler, parce que je crois que c'est plus que jamais l'occasion de le faire, que la liberté d'agir en s'associant est un des principes de base de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important parce que par rapport à notamment ce qu'évoquait Romain, mais ce que je vais apprendre, la question de savoir si nous sommes toujours libres de décider ce que nous avons à faire et de la façon dont nous voulons le faire demeure une vraie interrogation assez stratégique, à vrai dire, pour l'économie sociale et solidaire, quelles que soient ses formes. Cette liberté d'agir, elle s'exprime sous différentes formes, pour différents objets sociaux, et c'est bien la force de l'économie sociale et solidaire. Que ce principe-là soit applicable à bien des activités, à bien des secteurs. On sait que les remises en cause sont de tous ordres. Alors, ils sont d'ordre, parfois c'est l'injonction des financeurs, parfois c'est l'évolution de la réglementation, qu'elle soit effectivement européenne ou parfois totalement nationale. C'est parfois le conformisme ou la technocratie, la mise en concurrence. C'est aussi parfois l'affaiblissement démocratique de nos propres organisations démocratiques, de nos propres organisations qui nous amènent à ces remises en cause. Donc, je crois que la question de la coopération entre acteurs, au-delà de la synergie d'ailleurs, parce que je pense que la coopération, c'est un principe qui est plus fort que la synergie. La synergie est peut-être un moyen d'analyse. La coopération, c'est un principe d'action. Je crois que c'est l'une des clés pour l'avenir dans l'économie sociale et solidaire. Ça fait longtemps que le monde coopératif parle d'intercoopération, pas tout à fait certain qu'il arrive parfaitement à l'illustrer. Néanmoins, je crois que c'est un peu de ça dont il faudrait aujourd'hui s'inspirer. Pour quelles raisons ? Ben, moi, j'en vois quatre principales. Ce ne sont pas les seules, mais c'est comme ça que j'ai senti les choses. D'abord, la coopération entre acteurs peut être l'un des moyens de résistance à la logique projet qu'on nous oppose, notamment dans le monde associatif, de la part des financeurs. Je crois qu'il n'y a rien de pire que voir le projet s'affadir parce qu'il doit passer sous les fourches codines des financeurs publics. Je dis public aujourd'hui, mais avec le développement des financements privés également du monde de l'économie sociale et solidaire, ça ne peut pas aller en s'arrangeant. Ce qui fait la force du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire peut-être au sens plus large du terme, c'est la capacité des gens à s'associer, à se rassembler pour mener ensuite un projet, je dirais même aussi l'évaluer eux-mêmes. D'ailleurs, le fait est que si nous laissons les principes de financement, les logiques d'acteurs de financement remettre en cause cette liberté d'établir soi-même son projet, évidemment que nous allons avoir des difficultés à assurer la pérennité des organisations, alors même qu'elle était censée être garantie par nos formes choisies. Et je pense que la coopération entre acteurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'un projet soit le plus largement partagé et porté par des acteurs différents, complémentaires, avec un partage d'objectifs, de logiques, de moyens, je pense que c'est une façon de résister à cette logique de l'appel à projet et donc de la soumission à la question du financement et aux personnes publiques ou privées qui financent. Donc la coopération pour renforcer les projets et derrière pour résister aux logiques des financeurs. La deuxième raison que je vois à la coopération, c'est comme un moyen de se positionner pour faire face à de nouveaux enjeux. L'économie sociale et solidaire s'est développée dans plein d'activités différentes. Évidemment, il y en a où elle est extrêmement dominante. Aujourd'hui, on voit aussi que la société est en train de changer, l'économie est en train de changer, pour le meilleur et pour le pire, et qu'il y a des sujets qu'il s'agirait de se réapproprier ou de s'approprier tout court, parfois pour créer des nouvelles activités, parfois pour les rendre de façon différente qu'auparavant, parfois aussi pour relocaliser des activités. Et il me semble que la clé de tout ça pour l'économie sociale et solidaire, c'est de faire en sorte que les acteurs puissent se rassembler, notamment à partir de logiques de territoire, parfois à partir de logiques de filière, pour essayer de faire en sorte que les enjeux économiques et sociaux qui amènent à des solutions nouvelles puissent être portés par l'économie sociale, mais en étant assez lucide sur les capacités de l'économie sociale à le faire, à mon avis, il faut concevoir des modes d'alliance qui, jusqu'à aujourd'hui, n'existent pas nécessairement, parfois des alliances territoriales, parfois des alliances plus globales, en mariant les organisations, en cumulant les moyens, etc. La troisième raison de coopérer, à mon avis, c'est pour faire en sorte… vous voyez encore, oui ? Un partage d'écran. Oui, c'est coopérer pour inventer des nouveaux modèles économiques. C'est sans doute le sujet peut-être un peu délicat entre nous, mais parmi les choses que la crise montre, c'est la fragilité des modèles économiques de l'économie sociale et solidaire. Alors, pas de tous, évidemment, mais ce que l'on constate aujourd'hui, principalement dans le monde associatif, mais pas que, à vrai dire, c'est que pour la première fois, ayant à subir une crise de l'activité économique, de l'économie réelle. On n'est pas du tout dans la crise financière. La crise financière d'il y a 10 ans, c'était évidemment tout à fait autre chose. On était épargné par ça. Et en plus, aujourd'hui, à vrai dire, la finance se porte très bien. Donc, ce n'est pas le moindre des paradoxes. C'est la première fois que l'économie sociale vit à cette échelle, en tout cas, je dis dans l'époque contemporaine, on va dire, vit une crise économique de cette nature, en fait. Et c'est la première fois qu'elle est touchée au cœur même de ses activités. Et que du coup, les modèles d'économie sociale qui étaient censés être plus résilients, plus durables, etc., pour le coup, apparaissent comme extrêmement faibles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la perfusion dont ils ont besoin dépend assez largement en fait, des pouvoirs publics. Et ça ne peut pas les mettre dans une situation favorable pour la suite. Donc la question de savoir si et comment on doit renforcer aujourd'hui les capacités financières des associations me semble stratégique, non seulement pour évidemment passer la crise, ça c'est une chose, et sans doute que ce qui est fait est insuffisant, même si ça a le mérite d'exister, mais en stratégie de plus long terme, la question du renforcement des moyens des fonds propres des associations, peut-être un peu au-delà aussi que les associations, va se poser et il va falloir inventer des nouveaux modèles. Et si on ne veut pas totalement dépendant de certains types de financeurs, je crois qu'il va falloir imaginer des solutions qui notamment reposent sur la coopération entre acteurs de l'ESS, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres motivations à ça par ailleurs, bien évidemment, mais je pense que c'est un moyen plus sûr, plus conforme à l'objectif de résilience que de le faire par des modèles bancaires ou de subventions publiques. Voilà. Et puis le quatrième et dernier point, la quatrième raison de coopérer, à mon avis, c'est pour refonder nos modèles démocratiques. Je pense que parmi les faiblesses qui sont devenues intrinsèques de l'économie sociale et solidaire, il y a le fait que les modèles démocratiques qui sont censés les caractériser nos formes d'organisation sont quand même très affaiblis. Alors, pas de la faute des organisations elles-mêmes nécessairement. Je pense que le sentiment général n'est pas à l'engagement. Les raisons de s'engager ne manquent pas, mais leur formalisation est parfois compliquée. L'absence parfois de résultats peut être une sorte de découragement. J'en passe des meilleurs. Mais la force citoyenne que représente l'ESS est aujourd'hui un peu affaiblie, alors même qu'elle a un potentiel évidemment formidable. Et puis même, je dirais, au-delà de la question de nos organisations, la culture démocratique dans les organisations de l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui, je pense, au cœur des enjeux stratégiques de notre pays. On vit quand même dans une époque compliquée, ça c'est pour parler par euphémisme, que ce soit en France, en Europe ou plus largement. On voit quand même que la démocratie n'est pas si établie que ça dans ce genre de contexte. Je pense qu'il est temps de réveiller un peu nos structures d'économie sociale et solidaire, fortes de leur culture démocratique, pour faire en sorte que les personnes qui s'y engagent, les personnes qui y travaillent aussi, soient conscientes de la force citoyenne qu'elles représentent et de ce à quoi elles peuvent contribuer pour la bonne marche de la société. Je pense vraiment que c'est une question d'enjeu de société. Et puis, au passage, c'est un moyen aussi, en travaillant ensemble sur ces sujets-là, entre acteurs associatifs, coopératifs, mutualistes, chacun ayant ses défauts, évidemment, les acteurs dérivants, il y en a partout, j'en connais quand même quelques-uns, c'est aussi une façon d'hybrider nos modèles, en fait. Je suis assez persuadé que la mutualité doit se réinventer avec la coopération, que le monde associatif doit aussi se réinventer en travaillant avec d'autres types d'acteurs. Voilà, je pense qu'il y a un terrain de coopération qui est non seulement assez vaste, mais qui est assez stratégique. Pour finir, je ne sais pas où j'en suis de mon temps de parole, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en m'invitant à parler des synergies entre acteurs de l'ESS, moi je résumerais ça d'une formule qui est peut-être une sorte de péroraison, je ne sais pas comment faut le dire, comment vous le prendrez surtout. Mais moi, je pense qu'il est l'heure de réapprendre à faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes tout seuls, en fait. Voilà. Les organisations de l'ESS, quel que soit leur secteur d'activité ou leur forme, elles ont créé des choses, elles ont été à l'initiative de ce qui fait aujourd'hui souvent le contrat social du pays, parfois même les formes économiques de notre pays. Et bien, il est l'heure d'inventer des choses un peu nouvelles, sauf que pour faire ça, il faut à nouveau regarder ce qu'on est capable de faire avec notre potentiel et regarder à plusieurs ce qu'on est capable de faire ensemble. C'est comme ça qu'on fera non seulement les choses nécessaires, mais qu'on fera des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes. C'est l'un des sujets qu'on essaie de porter à ESS France dans la République de l'ESS, l'initiative qu'on a lancée et qui va durer au moins un an pour reformuler un projet politique pour l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Merci à vous.
Merci Jérôme. Patricia, pendant l'intervention de Jérôme, nous avons vu opiner plusieurs fois. Quel est le regard du MES sur ces synergies et sur ces dynamiques pour avoir enfin une économie sociale à la hauteur de nos aspirations à la transformation et à l'émancipation?
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Et puis d'abord, merci à tous les co-organisateurs pour cette journée, qui est une très belle journée et qui montre vraiment par la richesse de ses contributions depuis ce matin et tous les témoignages, tous les analyses qui ont été apportés, à quel point justement on a besoin d'échanger ensemble entre différents réseaux et aussi avec les chercheurs qui sont impliqués, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire. En effet, j'opinais lorsque Jérôme parlait parce qu'il y a plusieurs éléments qui me semblaient en effet être des enjeux très forts par rapport à ces questions de synergie et de force que peut constituer l'économie sociale et solidaire. Ça a été dit un petit peu dans la table précédente aussi, la crise, mais au-delà de la crise, a révélé à quel point la question du sens, la question de nos interdépendances, même la question de notre relation à la nature et peut-être une certaine forme d'humilité aussi que nous avons par rapport à la question du vivant, à quel point nous devions revenir et réinvestir la notion de solidarité et des relations entre personnes. Et à quel point, justement, aujourd'hui, il nous fallait peut-être sortir de cette logique d'un sens marchand et de croissance auquel on nous appelle toujours pour, justement, revenir à cette question de la personne, à cette question des relations et à cette manière de faire solidarité. Ça a été montré aussi bien dans la crise un peu de sens et la réinterrogation qu'on a eue que par toutes les formes d'innovation ou les formes d'initiatives qui ont été prises sur les territoires. Et là où il me semblait en effet se dire qu'on peut être aussi que l'ESS doit dépasser la logique de secteur et d'activité, comme ça a été dit aussi ce matin, c'est-à-dire que nos activités que nous faisons, nous dans le champ culturel, par exemple pour mon réseau, dans l'économie solidaire, dans l'agriculture, dans l'hébergement, dans le commerce équitable, etc., dépassent l'activité pour réinterroger plus profondément notre capacité de citoyen à agir, notre liberté d'auto-organisation, notre position par rapport à la question de l'exigence des droits, des dignités des personnes. Et aujourd'hui, on voit que on a peut-être une capacité, si en effet, je pense que la question de la coopération en effet est essentielle, si on se pense peut-être tout d'abord comme un mouvement culturel. Moi, ça me semble très important de se dire qu'on a une capacité à construire un nouvel imaginaire. En effet, peut-être d'être plus grand que nous-mêmes, parce que aujourd'hui, on ouvre des possibles par des actions concrètes, et aussi par une capacité, justement, dans cette synergie de différentes typologies d'acteurs, de produire du réflexif, de produire une capacité aussi structurelle, et donc peut-être d'arriver à poser un nouvel imaginaire autour, notamment, de la logique économique. On le voit d'autant plus que, comme ça a été rappelé, on a des millions de personnes qui aujourd'hui sont investies et s'engagent dans cette culture associative, dans cette culture de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut aussi que nous puissions, nous, avoir une exigence par rapport à nous-mêmes dans cette capacité d'influence culturelle. C'est peut-être, par exemple, ça a été aussi dit ce matin, ne pas se restreindre à la notion de réponse aux besoins, pour s'inscrire peut-être parfois plus dans l'exigence du respect des dignités et des droits fondamentaux. Ce qui nous permet aussi d'apporter une nouvelle exigence par rapport à la situation dans laquelle on est. C'est cette capacité d'inventer un nouvel imaginaire socio-économique, on l'a dit, sur des nouvelles formes d'organisation collective, de prise de décision, de relations dans le travail, qui s'appuie, Jérôme l'a dit, plus sur la question de la démocratie dans ses initiatives, sur la coopération plutôt que la course à la concurrence, sur la diversité des initiatives peut-être plutôt que sur la course à la taille, sur le réseau, la mise en réseau, la coopération un peu organique plutôt que sur une logique de concentration et de structuration verticale. Mais pour ça, il faut qu'on ait aussi le temps, peut-être nous-mêmes, de nous interroger, de déconstruire un peu les dogmes, les normes, de s'autoriser à, à interroger, à réfléchir, à innover, à vraiment le penser la transformation, ce que nous ne faisons pas toujours parce que nous avons aussi ce danger du mimétisme et de plutôt avoir tendance à en effet récupérer les injonctions ou les manières de faire de l'économie capitaliste. Donc on a besoin justement, et peut-être la synergie dans l'ESS nous permettra aussi voilà, de prendre le temps de se saisir de la diversité des approches, de dialoguer, de croiser nos référentiels. Je suis tout à fait d'accord aussi sur cette question de l'hybridation des compétences qui appartient à chaque aussi forme dynamique de l'économie sociale et solidaire, sur les mutuelles, sur les coopératives, sur les associations, sur toutes les initiatives non monétaires également que l'on connaît, des initiatives citoyennes hybridées. Il faut qu'on arrive aussi à croiser ces référentiels. Je pense qu'il y a justement ces partenariats acteurs-chercheurs qui sont aussi extrêmement importants. Si on se pense en organisation plus organique, plus systémique, plus dans une logique interconnectée, comme nous on aime bien citer Édouard Glissant et la question de la diversité culturelle et d'une autre manière aujourd'hui de penser le monde, plutôt comme des archipels reliés qui font mouvement, on a besoin de connecteurs et sans doute que cette dimension acteur-chercheur, elle est aussi un de ces espaces connecteurs. Et je dirais, il faut évidemment dépasser aussi le champ de l'ESS en tant que tel, puisque ce qui est important, c'est aussi de faire mouvement peut-être avec d'autres dynamiques qui ne se reconnaissent pas de l'économie sociale et solidaire, mais qui sont sur les mêmes logiques, mouvements citoyens, mouvements sociaux, mouvements des communs, enfin voilà, qui sont vraiment très nombreux et on a à travailler avec eux. Alors, je vais essayer d'aller assez vite, mais je voulais quand même aussi mettre l'accent sur la question des actions concrètes. Ça a été dit aussi ce matin, hein, dans la prospective à penser. Il y a la question des actions, il y a la question de voir les actions concrètes et là aussi on a des coopérations possibles pour avancer dans ce mouvement. Partir des citoyens qui s'auto-organisent librement, ça a été dit, identifier les acteurs, mieux se connaître sur les territoires. Le transiscope qu'on a vu tout à l'heure est une dimension, enfin voilà, est un outil par exemple pour cela. En faisant aussi attention à bien prendre en compte toutes ces alternatives socio-économiques. Parfois, dans l'ESS, on a tendance à oublier toutes ces initiatives citoyennes, je disais, non monétaires, qui ne s'inscrivent pas dans une logique entrepreneuriale, comme parfois l'injonction se fait. Et donc, je crois que vraiment, on a besoin de réunir toute la diversité des acteurs. Et une proposition du MES forte que je pourrais citer est bien sûr la logique d'écosystèmes territoriaux solidaires. Aujourd'hui, on a besoin de travailler en local cette coopération active. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont connues. On a parlé des pôles territoriaux de coopération économique, on a soutenu les logiques de tiers-lieux solidaires, on peut penser aux foncières solidaires, à des réseaux locaux. Il y a énormément d'initiatives, mais il faut qu'elles puissent être mieux soutenues, les processus, être reconnues comme des processus et non pas comme des actions en tant que telles. Parce que ces processus de coopération sont formés de dynamiques multiples et se construisent dans la durée. Et aujourd'hui, on manque d'accompagnement et d'ingénierie d'accompagnement par rapport à cela. Et là, dans le champ de l'ESS, on a une capacité de travail par cette hybridation de compétences, on l'a déjà dit, mais aussi parce qu'on sait soutenir des logiques de recherche-développement, de recherche-action avec des processus plus participatifs que ce qu'on peut rencontrer ailleurs. On a une ingénierie possible sur les finances solidaires. Voilà, je parlais des foncières par exemple tout à l'heure. On sait à quel point la question de la terre dans l'agriculture, de l'hébergement, etc., sont importantes. Et puis on pourrait également parler de cette convergence sur un véritable plan de relance, mais là j'y reviens pas parce que c'était la table précédente, mais je souscris vraiment à ce qui a été dit. Juste un dernier levier, mais ça a été aussi dit par Jérôme, c'est la question de la démocratie, l'entretien et l'exigence de la démocratie. Moi, pour rajouter par rapport peut-être à ce qu'il a déjà dit sur en effet à quel point ces initiatives de l'économie solidaire peuvent être des endroits d'entretien du droit à s'exprimer, à délibérer, à participer, mais aussi du devoir du respect dans la relation, la capacité à palabrer, à s'organiser. C'est peut-être cette question qu'on a à traiter et à travailler de l'ascendance territoriale et de notre capacité à peut-être construire de nouveaux espaces de coopération et de co-construction, justement, dans une logique d'organisation plus coopérative, peut-être moins concentrée, qui passe plus la confiance aux acteurs en local et aux citoyens en local. Et puis évidemment, on en a parlé aussi ce matin, de ce travail de co-construction avec les politiques publiques. Je pense qu'il est vraiment important que cette synergie dans l'économie sociale et solidaire se porte aussi sur notre manière de construire le dialogue avec les élus et les collectivités publiques, notamment au niveau local, et que là, on a peut-être à renforcer un peu nos outils de cette relation avec les politiques publiques. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein, sur aussi bien les logiques de conventionnement que des espaces démocratiques à construire. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que j'étais un peu longue.
Non, c'est parfait. Vous avez tous les deux parfaitement respecté les normes données. Il nous reste même quelques minutes. J'ai regardé dans le chat plusieurs messages font référence à la formation, à la mobilisation des jeunes pour l'ESS, et comment les tenir éloignés des sirènes du social business. Qui veut ce... Jérôme, par exemple, en deux mots. Il reste 2 minutes. Il reste... Non, 3.
Bon, ben écoute, je vais essayer d'être télégraphique alors. Je pense que les jeunes sont plutôt spontanément attirés par l'ESS, mais malheureusement, il faut trop savoir ce que ça veut dire. Exactement. Souvent, il y a un mélange d'aspirations parfaitement d'ordre humanitaire ou humaniste, je ne sais pas comment il faut le dire, de recherche de sens à titre personnel et d'utilité collective. Le problème, c'est que l'incarnation de tout ça dépend pour beaucoup d'acteurs qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait pleinement en phase avec l'économie sociale et solidaire. Le problème, c'est que je ne veux citer personne, mais je pense qu'on a du mal, pour le dire à l'envers, dans l'économie sociale et solidaire, plutôt fière de ce qu'elle est et qui essaie d'expliquer ses principes, à incarner la réponse à cette recherche de sens. Voilà. Ça me semble assez caractéristique, et notamment pour ceux qui cherchent une activité, c'est-à-dire un emploi, une activité qui n'est pas de l'emploi, mais pour ceux qui cherchent à travailler dans l'économie sociale et solidaire, je pense qu'on a du mal à faire une proposition qui réponde à ces attentes sans qu'il y ait des rives derrière. Et je pense qu'il y a un vrai débat en ce moment, d'ailleurs, à l'appui de livres qui sont sortis, même un article dans Le Monde aujourd'hui sur la question, sur le burn-out dans l'économie sociale. Donc je pense qu'il y a un problème d'incarnation et de travail, à mon avis, de la part des employeurs de l'économie sociale. Voilà. Et je pense qu'on n'y est pas tout à fait.
C'est vrai que c'est une question difficile parce qu'on aimerait pouvoir en parler beaucoup plus longtemps. Mais peut-être deux éléments. On vient justement de conduire à l'UFISC un projet sur la question de la place des jeunes en milieu rural, notamment parce que les territoires ruraux sont particulièrement... c'est parfois particulièrement difficile et en même temps peuvent être très contributifs. Et ce qui nous paraît important, c'est peut-être aussi de reposer plus particulièrement cette place des jeunes, c'est-à-dire de leur participation, de leur capacité à accompagner leurs propres initiatives. La question de la précarité des jeunes et des inégalités aujourd'hui très fortes qu'ils connaissent. Et c'est vrai que peut-être que l'ESS n'est pas non plus toujours au rendez-vous dans ce sujet-là. Il y a aujourd'hui sans doute une posture aussi à avoir par rapport aux jeunes et à leurs capacités. Je parle notamment aussi des jeunes précaires. On avait hier au FRES une table ronde là-dessus. De voir toutes les capacités, toutes les ressources qu'ils peuvent apporter et parfois les voir moins comme une charge que comme véritablement des dynamiques et des ferments en fait qui vont pouvoir justement nous apporter beaucoup. Donc voilà, il y a peut-être aussi reconsidérer un petit peu la manière dont on voit la jeunesse et sa capacité. Alors j'ose plus parler d'engagement maintenant, ce terme est tellement pris de manière complexe, mais sa manière en tout cas d'avoir envie de contribuer à la société. Et juste peut-être une dernière chose, si je peux me permettre, parce que j'ai oublié de le dire, et c'est quand même pour notre travail et puis ce que tu citais, Jean-Philippe, sur l'Institut Polanyi, je pense extrêmement important, c'est peut-être aussi le lien à l'international. On a parlé, Romain Guéry a parlé de l'Europe, on était un petit peu vite aussi, mais je pense qu'il y a aussi cette question de l'international qui est extrêmement importante et qu'aujourd'hui, réussir ce pari de l'imaginaire culturel et ce pari de cette force citoyenne, c'est aussi le penser avec d'autres pays. On sait les travaux que les chercheurs aussi mènent dans cette logique internationale, réfléchir avec l'économie populaire, réfléchir avec les économies féministes, réfléchir avec les économies transformatrices. Tout ça est extrêmement important et il faut aussi qu'on puisse, qu'on puisse s'en saisir.
Alors sur ce point, dernier point qu'a évoqué Patricia, puisque nous sommes au chapitre des coopérations et des complémentarités, je renvoie ceux qui veulent voir aborder cette question plus longuement à la table ronde internationale que nous avons eue la semaine dernière aux rencontres de la Plaine avec Gustave Massia et les représentants de SS Forum International et d'autres acteurs de l'ESS à l'international. Voilà, écoutez, il est 35, nous sommes tout à fait dans les temps qui nous ont été impartis, cela tient du miracle, et donc je dois introduire, il m'appartient d'introduire la table ronde suivante qui sera animée par Bruno Lanier qui appellera les participants. Merci Patricia, merci Jérôme.